« Ma conscience est recueillie, dit-il. Je viens ici porter parole pour le roi d'Angleterre, duc de Guyenne. » Il avait l'expérience de ce genre d'assemblée où tout est préparé en sous-main et où chacun pourtant hésite à faire la première intervention. Il se hâtait de prendre cet avantage. « Au nom de mon maître, poursuivit-il, j'ai à déclarer que la plus proche parente du feu roi Charles de France est la reine Isabelle, sa sœur, et que la régence de ce fait doit à elle revenir. » À l'exception de Robert d'Artois qui s'attendait bien à quelques coups de cette sorte, les assistants marquèrent un temps de stupéfaction. Nul n'avait songé à la reine Isabelle durant les tractations préliminaires. Nul n'avait envisagé une minute qu'elle pût émettre la moindre prétention. On l'avait oubliée tout bonnement. Et voilà qu'elle surgissait de ces brumes nordiques par la voix d'un petit évêque en bonnet fourré. Avait-elle vraiment des droits ? On s'interrogeait du regard, on se consultait. Oui, de toute évidence, si l'on s'en tenait aux strictes considérations de lignage, elle possédait des droits. Mais il semblait dément qu'elle en voulût faire usage. 5 minutes plus tard, le conseil était en pleine confusion. Tout le monde parlait à la fois, et le ton des voix montait sans égard pour la présence du mort. Le roi d'Angleterre, duc de Guyenne, en la personne de son ambassadeur, avait-il oublié que les femmes ne pouvaient régner en France, selon la coutume deux fois confirmée par les pairs dans les récentes années. « N'est-ce point vrai, ma tante ?» lança méchamment Robert d'Artois, rappelant à Mahaut le temps où il s'était si fort opposé sur cette loi de succession établie pour favoriser Philippe le Long, gendre de la comtesse. Non, Monseigneur Orleton n'avait rien oublié. Particulièrement, il n'avait pas oublié que le duc de Guyenne ne se trouvait ni présent ni représenté, sans doute parce qu'à dessein averti trop tard, aux réunions des pairs où s'était décidée très arbitrairement l'extension de la loi dite salique au droit royal, laquelle extension, par voie de conséquence, le duc n'avait jamais ratifiée. Orleton ne possédait pas la belle éloquence onctueuse de Monseigneur Guillaume de Try. Il parlait un français un peu rocailleux avec des tournures archaïques qui pouvaient prêter à sourire. Mais en revanche, il avait une grande habileté à la controverse juridique. Et ses réponses venaient vite. Messire Mils de Noyers, conseiller des Quatre Règnes, et le principal rédacteur, sinon même l'inventeur de la loi salique, lui porta la réplique. Puisque le roi Édouard II avait rendu l'hommage au roi Philippe le Long, on devait admettre qu'il avait reconnu celui-ci pour légitime et ratifié implicitement le règlement de succession. Orleton ne l'entendait pas de cette oreille. Que nenni, messire! En rendant l'hommage, Édouard II avait confirmé seulement que le duché guyennais était vassal de la couronne de France, ce que personne ne songeait à nier, encore que les limites de cette vassalité restassent depuis 100 et des ans à préciser. Mais l'hommage ne valait point pour la loi du trône. Et d'abord, de quoi disputait-on ? De la régence ou de la couronne ?
Des deux ! Des deux ensemble, intervint l'évêque Jean de Marigny.
Car, justement, l'a dit Monseigneur de Try, sagesse veut de prévoir, et nous ne devons point nous exposer dans 2 mois à affronter le même débat. Mahaut d'Artois cherchait son souffle. Ah, qu'elle était fâchée du malaise qu'elle éprouvait, et de ce bruissement dans la tête qui l'empêchait de penser clairement. Rien ne lui convenait de tout ce qu'on disait. Elle était hostile à Philippe de Valois, parce que soutenir Valois, c'était soutenir Robert. Elle était hostile à Isabelle, par vieille haine, parce qu'Isabelle, autrefois, avait dénoncé ses filles. Elle intervint avec une mesure de retard.
« Si la couronne à femme pouvait aller, ce ne serait point à votre reine, messire évêque, mais à nul autre qu'à madame Jeanne la Petite. Et la régence à exercer devrait l'être par son époux, que voici, Monseigneur d'Évreux, ou son oncle, qui est à mon côté, le duc Eudes. »
Quelques flottements furent perceptibles du côté du duc de Bourgogne, du comte de Flandre, des évêques de Laon et de Noyon, et jusque dans l'attitude du jeune comte d'Évreux. On eût dit que la couronne était en suspens entre sol et voûte, incertaine du point de sa chute, et que plusieurs têtes se tendaient. Philippe de Valois avait depuis longtemps abandonné sa noble immobilité et s'adressait par signe à son cousin d'Artois. Celui-ci se leva.
« Allons ! » s'écria-t-il. « Il paraît qu'en ce jour, chacun s'empresse à se renier. Je vois Madame Mahaut, ma bien-aimée tante, toute prête à reconnaître à Madame de Navarre. »
Et il appuya sur le mot « Navarre » en regardant Philippe d'Évreux pour lui rappeler leur accord.
« Les droits précisément qu'elle lui contesta naguère.
Je vois le noble évêque d'Angleterre se réclamer des actes d'un roi qu'il s'est occupé à déchasser du trône pour faiblesse, incurie et trahison.
Voyons, monsieur Orleton.
On peut pas refaire une loi à chaque occasion de l'appliquer et au gré de chaque parti. Une fois, elle sert l'un, une fois, elle sert l'autre. Nous aimons et respectons Madame Isabelle, notre parente, que nous sommes quelques-uns ici à avoir aidé et servi.
Mais sa requête, pour laquelle vous avez bien plaidé, semble irrecevable. N'est-ce point votre conseil, messeigneurs ?
Acheva-t-il en prenant les pères à témoin. Des approbations nombreuses lui répondirent, les plus chaleureuses venant du duc de Bourbon, du comte de Blois, des pères évêques de Reims et de Beauvais. Mais Orleton n'avait pas usé toutes ses lames. Si même on admettait qu'il s'agit non seulement de la régence, mais aussi éventuellement de la couronne, si même on admettait, pour ne point revenir sur une loi appliquée, que les femmes ne pussent régner en France, alors ce n'était pas au nom de la reine Isabelle, mais au nom de son fils, le roi Édouard III, seul descendant mâle de la lignée directe, qu'il élevait sa réclamation.
Mais si femme ne peut régner, à plus forte raison ne peut-elle transmettre, dit Philippe de Valois.
Et pourquoi, monseigneur ? Les rois en France ne naissent-ils donc point de femmes ?